Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en direct dans votre émission internationale avec RFI et le journal Le Monde. Bienvenue à tous. Elle n'a peut-être jamais autant fait parler d'elle. Souvent qualifiée de belle endormie, de passéiste, la francophonie a été vantée ces derniers mois comme une chance par le président français Emmanuel Macron. Mais quel rôle joue-t-elle vraiment? Quelle est sa place dans l'actualité du monde? C'est la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, qui est l'invité d'International. Mais pour ouvrir cet entretien, ce document, un extrait d'une célèbre émission littéraire longtemps dirigée et animée par Bernard Pivot. Nous sommes en 1988, il y a 30 ans. Il reçoit Loïc Depecker, l'auteur d'un petit dictionnaire insolite, Les mots de la francophonie. Bernard Pivot s'en délecte et l'astrophysicien franco-québécois Hubert Reeves lui livre son analyse. Regardez, écoutez.
Au Sénégal, camemberé, c'est quelqu'un qui sent affreusement des pieds. Camemberé.
Je me demande bien pourquoi.
Oui, on se demande bien pourquoi. Et alors, admirable, c'est chéri coco, c'est un petit ami. Et alors, chéri coco, c'est la petite amie. Et il y a un autre mot au Sénégal, que j'ai trouvé aussi dans votre livre, c'est la gossette. C'est une gossette, c'est une petite amie. Et à Haïti, aller à la commode, ça veut dire faire ses besoins. Aller à la commode. Il vous a ravi ce livre.
Oui, j'ai vu derrière l'écriture de ce livre quelque chose que j'approuve tout à fait. C'est l'idée de faire valoir le fait que la langue française est une langue qui est une langue vivante, c'est-à-dire qui continue à évoluer et qui a des endroits dans lesquels elle s'évolue très vite. Par exemple, vous parlez de l'Afrique, de la capacité de faire des nouveaux mots qu'il y a en Afrique. Et ça, je crois que c'est très bien de le faire parce qu'il y a ici en France, j'ai l'impression, une tendance à faire de la langue française une langue de musée. C'est-à-dire, ça se dit pas.
Bonjour, Michaël Jean.
Bonjour.
Alors, je le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 84 pays. Alors, cet extrait, il vous amuse ou il vous irrite quand vous voyez la langue française comparée à un musée? Tout dernièrement, c'est la représentante personnelle du président français, Emmanuel Macron, Leïla Slimani, qui a dit qu'il allait sortir la langue française des boudoirs et des salons.
C'est une étrange, façon de concevoir la langue française.
Langue c'est pas la réalité.
Non, pas du tout. C'est pas une langue des boudoirs. C'est une langue extrêmement dynamique, une langue qui est porteuse aussi d'un pouvoir d'influence et d'attractivité dans le monde. C'est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les 5 continents. C'est la 3e langue des affaires. C'est la 2e langue la plus enseignée dans le monde. Et c'est extraordinaire, quoi, de voir cette langue qui est aussi langue d'innovation, langue des technologies, langue des sciences, langue de la pensée.
Mais il y a d'autres perceptions. Mais avant de poursuivre cet entretien, je vous propose ce focus. Votre parcours, il a été réalisé par Bastien Bory et Bernard Martineau.
Le téléjournal avec Michaël Jean.
Mesdames, Messieurs, bonsoir.
Le ton est ferme et l'expression grave. À 44 ans, la première présentatrice noire de Radio-Canada s'imagine-t-elle alors devoir changer de visage 4 ans plus tard? En 2005, vous voilà propulsé gouverneur général du Canada en représentation. Et contrairement à vos prédécesseurs moins remuants, vous tenez à la diplomatie du corps.
Nous arrivons maintenant avec de nouveaux décideurs qui ont grandi dans la diversité. Qui ont grandi dans un monde, justement, où nous nous rencontrons.
En faisant, bien sûr, quelques pas de côté, vous qui, défenseur des traditions inuites, récusez ce célèbre proverbe selon lequel le pouvoir ne se partage pas.
Dans le pouvoir, il y a aussi la nécessité d'amener d'autres à avoir cette capacité de faire bouger les lignes.
Né à Port-au-Prince, vous serez d'abord déraciné par la dictature Duvalier que vous fuyez à 10 ans avec votre famille. Alors, quand survient le dramatique tremblement de terre de 2010 en Haïti, ce n'est peut-être pas tant la représentante de la couronne britannique qui s'exprime.
Our brothers and sisters in Haiti.
Mais votre musique adoucira les mœurs. Puis votre campagne sur les 5 continents pour accéder à la tête de l'OIF en 2015 fait perdre à l'Afrique les rênes de la petite ONU. C'est pourtant vers ce continent que se concentrent vos promesses. À 10 mois du prochain sommet en Arménie qui marquera le terme de votre premier mandat, il n'est pas toujours facile de savoir où en est la francophonie économique, votre principal chantier, un combat à mener et à gagner.
Mickaël Jean, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde nous ont rejoints. Alors, comme on vient de le rappeler dans votre itinéraire, vous êtes originaire d'Haïti. Vous avez réagi il y a à peu près une semaine aux propos tenus par qu'aurait tenu le président Donald Trump concernant ces pays comme Haïti et les pays africains, qu'il aurait qualifié de pays de merde. Vous avez jugé ces propos indignes, troublants, offensants. Sur la scène internationale, il y a eu des réactions des pays africains, de l'Union africaine, des ambassadeurs de l'ONU. Est-ce que vous pensez que l'Europe, et la France notamment, auraient dû réagir officiellement? Un commentaire.
C'est vrai qu'il y a eu des silences un peu que j'ai remarqué aussi, oui, un peu troublant même.
Celui de l'Europe, de la France.
Oui, de l'Europe. J'ai pas vu énormément de réactions. J'en ai pas vu au fait. À part Jacques Lang.
Oui.
À sa façon. Mais je crois que ce qui était très très important pour moi, c'était de voir Haïti et l'Afrique réagir d'une même voix. Parce que, étant inscrits ensemble sur une globalité africaine également, une expérience, une histoire en partage, et qui se sentaient extrêmement, tous ces pays, Haïti et ces pays africains, offensés par des propos d'une telle outrecuidance, venant de la bouche du premier représentant des États-Unis d'Amérique.
Vous dites vous remarquez ce silence Comment vous l'interprétez?
Je ne me l'explique pas parce qu'au fait, pour moi, c'était, et je l'ai dit, c'est une insulte à la face de l'humanité. On ne peut pas parler des peuples ainsi. Cela est ignoble.
Est-ce que vous pensez que Donald Trump aussi a peut-être voulu désigner certains dirigeants qui font que leur pays ne se trouve pas dans une situation où leurs ressortissants puissent rester vivre chez eux?
Vous savez, il y a le choix des mots quand même.
Bien sûr.
On peut le dire comme vous venez de le dire. Ouais.
Tout à fait.
On peut le dire comme ça.
Au-delà du choix des mots.
Mais le dire, je veux dire, de manière aussi, aussi glauque.
Derrière la manière, certains de ceux qui suivent votre profil sur Twitter, certains disent, Trump, finalement, il dit tout fort ce que certains pensent tout bas.
Alors que ceux qui le pensent sachent que, d'une part, il passe totalement à côté de peuples dignes, de peuples qui se battent tous les jours, de peuples qui accomplissent, qui réalisent des choses, et qu'on ne peut pas de la sorte traiter des États, des pays, des peuples de merde et de pays de merde. Voilà.
Mickaël Jean, quand Donald Trump annule un programme d'accueil d'urgence de 60 000 Haïtiens aux États-Unis à la suite du tremblement de terre de 2010, est-ce que c'est du racisme ou est-ce que c'est une politique migratoire comme chaque pays a le droit dans le...
Je pense qu'au fait, pour avoir moi-même été envoyée spéciale de l'UNESCO pour soutenir les efforts de reconstruction en Haïti, je ne pourrais d'aucune façon affirmer que certains de ces Haïtiens qui ont trouvé refuge aux États-Unis avec la bienveillance du président Barack Obama auraient nécessairement quelque chose qui les attende vraiment pour se réétablir en Haïti. J'ai vu 1,6 million de personnes vraiment pendant des années vivre sous des tentes dans des camps. J'ai vu et pris la pleine mesure du désastre. Il n'est pas certain que ces gens qui, voilà, ces réfugiés, que l'on voudrait renvoyer en Haïti sous prétexte que la situation se serait améliorée, est vraiment quelque chose qui les attende. Et d'autre part, je trouve que l'évaluation est un peu rapide.
Hâtive, vous voulez dire?
Oui, voilà, un peu hâtive. La situation n'est pas au mieux en Haïti.
Et alors, on voit certains de ces Haïtiens projetés de se rendre au Canada, ou y aller déjà.
Oui.
Est-ce que le Canada peut prendre le relais des États-Unis comme terre d'accueil et voire comme terre d'espoir? Parce que les États-Unis ont longtemps été dans le monde.
Vous touchez à une question qui rejoint aussi toute la situation de crise migratoire que l'on connaît en ce moment, de flux migratoire. Alors évidemment, le Canada est, oui, une terre d'accueil. Moi, je suis passée par là. Je fais partie de ces millions d'Haïtiens qui ont dû trouver refuge ailleurs pour des raisons à la fois politiques, un régime dictatorial, répressif, et aussi pour des raisons économiques, parce que ce même régime était aussi un régime prédateur. Donc souvent, les mêmes circonstances produisent les deux, produisent à la fois des réfugiés politiques et des migrants économiques. Et le Canada, oui, déjà, bon, lorsque ces gens se présentent à la frontière, premièrement, ils ne se présentent pas en dérogeant aux règles, ils arrivent et demandent asile, en ayant beaucoup aussi à offrir. Et ça, le Canada a tout de suite compris, et ça fait partie, je pense, de son histoire de l'accueil. C'est-à-dire que qu'est-ce que les gens apportent ? Une force de travail, une volonté de contribuer, une volonté aussi, en contribuant de quelque part, en s'installant également, de participer à l'édification d'un pays, à sa croissance.
Michael Jean, si vous voulez, poursuivons cet entretien avec un autre sujet d'actualité. Vous avez fait campagne, vous, pour diriger l'OIF, en insistant sur les droits, l'éducation, la place des femmes. Vous avez vous-même milité contre les violences faites aux femmes dans votre jeunesse. Ces derniers temps, il y a eu ce qu'on appelle l'affaire Weinstein, Balance ton porc, MeToo, etc. On n'a pas trop entendu l'OIF sur cette question. Pourquoi ?
Parce que l'OIF travaille sur la défense des droits des femmes quotidiennement. Parce que l'OIF a une politique aussi très ferme de vraiment d'égalité entre les femmes et les hommes avec un réseau de femmes extrêmement important. Nous venons de tenir même à Bucarest une conférence des femmes de la francophonie qui a rassemblé plus de 700 femmes, notamment des femmes entrepreneuses.
Et il n'aurait pas fallu dans ce débat faire entendre la voix de l'OIF.
Mais de quelle manière ? C'est-à-dire que lorsque nous quotidiennement nous agissons, entre autres, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, lorsque je vais jusqu'au Conseil de sécurité sur la résolution 1325, qui touche à quoi ? Justement, à la participation des femmes dans le domaine de la paix, de la sécurité, mais aussi à cette réalité terrible qui est du viol utilisé comme arme de guerre, et avec des guerres qui se transposent dans le ventre des femmes. C'est ça. En fait, donc le vrai champ d'action pour nous est celui-là. C'est pas rentrer dans une politique qui a pris, bon, vous savez, la tournure que l'on sait. C'est plutôt d'agir fermement sur des politiques, sur la mobilisation des femmes, sur la question de leurs droits. Et c'est là. Je voudrais dire une chose quand même sur cette présentation que vous avez faite du parcours, puisque vous avez parlé de mon élection à la tête de la francophonie en 2014, au sommet de Dakar. L'Afrique n'a rien perdu. Je ne serais pas aujourd'hui secrétaire général de la francophonie sans la volonté de chefs d'État africains. C'est-à-dire que quand parfois certains ont eu à dire à ce moment-là qu'il y avait une règle non écrite qui voudrait que ce soit un Africain qui soit à la tête de la francophonie.
Depuis sa création.
Vous savez que beaucoup de chefs d'État africains ont été choqués que l'on dise cela. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était la possibilité aussi d'amener une femme.
Puisque c'est pas une analyse, c'est un fait.
Puisque l'on a... Non, ce n'est pas un fait. Vous savez, c'est à ce moment-là que des chefs d'État africains ont tenu à aborder avec moi...
Que ce soit plus quelqu'un à la tête de la France.
Cette question de l'africanité globale.
Ah oui.
C'est-à-dire que, et même... Vous voyez, je fais le lien aussi même avec les propos de Donald Trump. Mm-hmm. L'africanité globale est une réalité. Ce que Donald Trump oublie dans ses propos injurieux, c'est que les États-Unis ne seraient pas sans ces hommes, ces femmes arrachées d'Afrique qui ont par leur sueur et leur sang, ont construit ce pays. Ne serait pas. La ville de Chicago a été fondée d'ailleurs par un Haïtien. Est-ce que vous saviez cela ? Je suis sûre que vous le saviez. Jean-Baptiste Pointe-du-Sable est celui qui fonde Chicago et il est Haïtien.
Pour revenir sur la question des femmes et un sujet qui les touche de très près. Et là, je ne veux pas parler seulement des femmes d'un niveau de l'élite, mais vraiment toutes les femmes dans les pays pauvres. Le président Macron a abordé ce thème de la natalité. Je voudrais savoir comment vous réagissez par rapport à sa façon d'aborder ce sujet, comment vous l'abordez vous-même à l'OIF. Le président Macron, pour rappeler, a expliqué que finalement, il servait peut-être pas à grand-chose de déverser de l'argent dans des pays où il y avait encore 7 à 8 enfants par femme. En substance, c'est ce qu'il a dit.
Je suis pas sûre qu'il l'ait dit ainsi. Par contre, la question de la, je dirais, du planning familial, elle se pose. Elle se pose réellement, et les femmes posent elles-mêmes... le problème. C'est-à-dire que les femmes veulent aussi avoir le choix du nombre d'enfants qu'elles mettent au monde. Les femmes veulent aussi entrer dans une vie professionnelle active. Les femmes portent énormément sur leurs épaules, y compris sur le plan économique. Beaucoup de femmes sont vraiment au cœur des initiatives économiques qui permettent la croissance de leur pays et de ses moteurs économiques de très petites et moyennes entreprises. Donc il est clair que qu'est-ce qui a permis aux femmes d'entrer dans la vie professionnelle et d'être vraiment des acteurs de changement, de croissance et de développement, ça a été aussi le contrôle des naissances.
C'est un vrai sujet que vous abordez avec les responsables. Vous trouvez que les prises en compte ?
Mais bien sûr que c'est un vrai sujet, tout comme aussi les mariages forcés et les grossesses précoces. C'est un vrai sujet et qui est porté par les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à la condition des femmes sans aussi penser à cette dimension-là, cette dimension du contrôle des naissances et de leur choix aussi.
Michael, il y a une autre dimension par rapport au pouvoir des femmes, ou du moins à leur place dans la société. Est-ce que la francophonie doit promouvoir l'écriture inclusive ? Il y a un grand débat en France.
Vous parlez à une Canadienne, une Québécoise, pour qui il est normal de féminiser les titres. Absolument. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas un problème. C'est limpide pour nous. Moi, par exemple, il va de soi, je suis la secrétaire générale de la francophonie.
C'est déjà le cas, mais il y a tout un débat en France sur l'adoption d'une écriture qui rend visible...
Qui rend visible ce qui est du réel, qui rend visible une réalité. C'est-à-dire que les mœurs se changent.
Est-ce que la francophonie Est-ce que l'OIF doit prendre position?
De toute façon, l'OIF pratique cette féminisation. De toute façon, déjà quand à la tête de l'organisation on dit la secrétaire générale et pas le secrétaire général, c'est que nous pratiquons ça. Quand je prends la parole, nous féminisons les titres, les fonctions, bien sûr. Nous disons femme entrepreneuse, par exemple, aux femmes entrepreneurs, dépendamment du lieu. Mais ça va de soi pour nous.
Au sujet d'actualité, la Tunisie. Vous avez fait un déplacement dans ce pays en juin dernier. Oui. On a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, des manifestations contre la vie chère, le chômage, etc. Vous aviez fait dans votre campagne l'économie un pilier de votre mandat. Comment avez-vous été aux côtés de la Tunisie sur ce dossier? Et est-ce que vous avez un rôle à jouer?
Lors de cette visite officielle et cette mission de travail en Tunisie, ce qui était évident, c'était d'une part de saluer, bien sûr, la transition démocratique effectuée par la Tunisie. Et ce qui nous a beaucoup intéressés, c'était d'entendre les autorités tunisiennes nous dire « Nous avons réussi cette transition démocratique. La francophonie nous a accompagnés dans ce processus, même techniquement, avec une aide technique et politique, sur le retour à l'état de droit, les élections. Maintenant, leur plus grande inquiétude, et c'est ce qu'ils exprimaient, même avec beaucoup d'émotion, je dirais, c'était de réussir le grand défi du développement économique et social.
C'est ce qui pose question aujourd'hui,
La Tunisie investit énormément de ressources humaines et de ressources économiques à la frontière avec la Libye. Mm-hmm. C'est-à-dire en essayant de tenir cette digue qui, si elle venait à lâcher, serait un véritable tsunami dévastateur pour l'ensemble du continent et pour aussi le monde, en termes de sécurité, en termes sécuritaires.
Comment analysez, Michael Jean, le stade auquel on est arrivé, où finalement les gens sont dans la rue, les jeunes sont dans la rue?
Alors j'en arrive, c'est que, avec toutes ces ressources humaines et financières investies dans la défense, la Tunisie se retrouve aujourd'hui en situation difficile et est obligée d'introduire aussi des mesures d'austérité et qui viennent finalement, provoquer de la grogne, de la colère, parce que les attentes des Tunisiens sont aussi sur les meilleures conditions de vie.
Du coup, les manifestations, elles ont été réprimées, il y a eu beaucoup d'arrestations manifestement arbitraires. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet?
Alors voilà, moi cela m'attriste parce que, au fait, je pense que je voudrais en tout cas que dans l'esprit de cette révolution de jasmin, que l'on reste encore sur un climat apaisé, que le dialogue l'emporte encore, que l'on ne soit pas, que l'on ne se retrouve pas en Tunisie comme ailleurs.
Retour avec notre invité Mickaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en direct sur TV5 Monde avec RFI et le journal Le Monde. Mickaël Jean, l'OIF ces derniers temps a suspendu de ses fonctions votre directeur général, enfin votre directeur de l'économie et du numérique, Kako Nubukwo. Il avait pris des positions très fermes contre le franc CFA et sa dernière Tribune, notamment, critiquait sans détour les propos d'Emmanuel Macron sur le franc CFA. Alors, on devrait savoir dans les prochains jours quel va être son sort. Il y a une commission qui doit statuer là-dessus. Est-ce que, en sanctionnant Kako Nubukwo, est-ce que vous ne mettez pas l'OIF dans une situation délicate, c'est-à-dire que vous prenez fait cause pour le franc CFA dans un débat qui peut apparaître, après tout, légitime?
Écoutez, c'est un vrai sujet, la question de la monnaie.
Bien sûr, c'est pour ça
que... Les questions monétaires sont de vrais sujets. La question du franc CFA est un vrai sujet.
Voilà.
Et donc... c'est un sujet dont les chefs d'État et de gouvernement africains de la zone du franc CFA discutent.
D'accord.
C'est un sujet sur lequel ils se penchent et en discussion aussi avec la France.
Et alors, en suspendant votre directeur qui s'est prononcé contre,
alors, écoutez,
est-ce que ce n'est pas une façon de positionner...
Non, écoutez, mais c'est très clair. Vous êtes cadre d'une organisation internationale. Vous êtes aussi tenu par un devoir de réserve. Vous ne pouvez pas, en tant que cadre d'une organisation internationale,
mais ces positions, elles étaient connues, parce qu'elles étaient, elles sont pas nouvelles. Avant même d'intégrer l'OIF,
oui, mais
il avait déjà...
Il
a écrit des livres là-dessus.
Bien sûr qu'il a écrit des livres là-dessus. Et je veux dire, on a amené à la francophonie un économiste pour diriger... cette direction. Il a d'autres qualités que celle-là, il a d'autres sujets que ceux-là. Mais en même temps, pour tous les directeurs à l'OIF, la règle est la même. C'est une clause contractuelle. C'est-à-dire que vous devez vous tenir à un devoir de réserve. De toute façon, c'est une question administrative, je pense, qui vous l'avez dit vous-même, qui sera débattue par des instances de l'organisation. Et là, dans la façon, c'était...
Oui, mais alors, quelle est la position de l'OIF sur le franc CFA?
Je viens de vous le dire, c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet.
Ah oui, mais dès lors.
Mais est-ce qu'il faut en sortir ou y rester dedans?
Mais non, écoutez, dès lors, c'est pas à nous d'en décider. Ce n'est pas à nous comme organisation d'en décider. Je veux dire, c'est aux chefs d'État et de gouvernement qui ont à prendre ce type de décision et qui ne peut pas être prise comme ça à la légère. Regardez ce que vous avez vécu ici en Europe. Je veux dire, la question du passage à l'euro a aussi ébranlé des économies. On ne peut pas en plus, quand on est, d'un pays quand même, dans la vie même des ménages, ça a été compliqué. Et la question est encore débattue maintenant, n'est-ce pas ?
C'est la position du Front National, mais bon, le passage à l'euro n'a pas été que un fardeau pour les ménages et pour les économies.
Non, je ne suis pas en train de dire... Je suis en train de dire que ce n'est pas une question légère. C'est-à-dire qu'il faut respecter aussi le rythme des pays sur cette décision d'ordre économique qui peut aussi avoir un impact sérieux, surtout dans des pays où on se retrouve avec des économies fragiles. Mais ces questions, elles sont débattues entre eux. Et dès lors qu'un pays africain de cette zone du franc CFA ou des pays nous demanderaient à nous, organisations internationales, multilatérales, d'accompagner la réflexion, nous le ferons parce que nous saurons rassembler les experts et les expertises en la matière. Certainement.
Et vous voulez dire que vous n'êtes pas sollicité sur ce
sujet? Nous ne sommes pas sollicités sur ce sujet parce qu'il existe aussi d'autres instances où on en débat de ce sujet. La Commission économique et de développement, la CDAO, l'UEMOA, ils ont aussi des mécanismes pour aborder ces questions. Alors, et l'OIF n'a pas été sollicité. Si vous regardez toutes les feuilles de route, les résolutions, les déclarations,
Michael Jean,
jamais vous ne... je n'ai vu en tout cas de mes yeux puis, d'accord. Que cette question
mais
soit
puisqu'on,
abordée.
Puisqu'on parle des missions de l'OIF, depuis sa création, on a quand même le sentiment que ces missions ont beaucoup évolué. Il y a eu la culture, la politique, l'économie. Il y a un dicton en français qui dit « qui trop embrasse, mal étreint ». Oui. Est-ce que aujourd'hui c'est ça le problème de l'OIF, s'il en est un? Est-ce que parce que parfois on a un peu du mal à cerner ses missions, ses réalisations.
En fait,
est-ce que c'est ça?
Vous avez par exemple dit tout à l'heure qu'on la traitait de belle endormie. Moi, je pense que plusieurs, et c'est le contraire au fait, c'est que beaucoup de gens étaient endormis et ne voyaient pas cette organisation. Elle n'a jamais été endormie, cette organisation.
Mais là, je parle de ses missions.
Cette organisation a toujours été projetée sur des missions de la sorte.
Oui, est-ce qu'il y en a trop? C'est quoi, au fond,
c'est une ambition légitime partagée par des
chefs... Est-ce qu'il n'y en a pas
trop? Mais dites-le aux chefs d'État. C'est une ambition légitime partagée par des chefs d'État et de gouvernement. C'est un espace extrêmement attractif qui rassemble aujourd'hui 84 États et gouvernements sur les 5 continents parce que dans cet espace-là, c'est un espace de potentialité, de possibilités énormes. Genre, beaucoup de pays s'engagent à la francophonie. La Corée du Sud vient d'adhérer. L'Argentine, nous sommes maintenant à 5 pays latino-américains. Oui, pourquoi? Parce que c'est un espace de passerelle.
Exactement.
Pour se rejoindre.
Hors de l'Afrique, par exemple, parlons du Cambodge, où on se dirige vers des élections dans des conditions plus que contestables. L'opposition est muselée, les opposants arrêtés, etc., leur parti dissous. Dans ces cas-là, l'OIF, comment est-ce que vous réagissez?
Alors, l'OIF a vraiment cet accompagnement des pays sur renforcement de leurs institutions, faire en sorte aussi que l'on puisse toujours encourager, l'exercice démocratique, les institutions qui sont garantes de l'état de droit. Cette question que vous abordez du Cambodge, elle a été abordée à la conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue pas plus tard qu'en décembre dernier.
Alors qu'est-ce que
avec le Conseil.
Vous n'êtes pas sur la ligne des Européens qui coupent les fonds pour les élections?
Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. La question a été soulevée lors du rapport politique. Et des préoccupations ont été soulevées à l'égard de ce qui s'y passe. Le Cambodge a pu aussi répondre. C'est un voilà.
Mais à l'heure qu'il est, vous allez observer les élections au Cambodge?
Absolument, bien sûr que nous allons faire ça, parce que c'est un dans notre travail politique.
Mais des élections sans opposants, c'est plus des élections.
Non, dans notre travail politique, nous travaillons toujours en amont. Le Cambodge, pour le moment, ne nous a pas demandé d'accompagnement, c'est-à-dire pour le processus électoral. Mais cela dit, bien sûr que nous allons quand même également observer. Notre travail, c'est vraiment de faire en sorte de rappeler les principes, avec un texte de référence qui est très clair aussi.
Si vous êtes sollicité, vous poserez des conditions.
Qui est la déclaration de Bamako. Vous dites si
vous êtes sollicité pour l'observation des élections, vous poserez des conditions ou vous irez quoi qu'il arrive si on vous le demande?
C'est-à-dire que si nous sommes sollicités, nous irons face à cette situation telle qu'elle est, et ce que nous ferons, c'est que, au nom aussi du pluralisme également, qui est une valeur essentielle pour la démocratie, nous ferons en sorte aussi d'ouvrir un espace où effectivement les partis politiques peuvent avoir la possibilité, voilà, de s'engager ensemble sur un dialogue. Mais nous devons toujours nous appuyer, sur aussi les acteurs politiques dans
alors,
le
attendez,
pays, les institutions.
Bon, allons au-delà du Cambodge, Christophe, sur le Sahel.
Non, c'est pas forcément sur le Sahel, mais au-delà du Cambodge, il y a un moment. On comprend plus bien quelles sont forcément les missions de la francophonie. Elles sont multiples, comme le disait Françoise. Mais on comprend pas non plus qu'est-ce qui rassemble ces pays. Vous me parliez de la Corée du Sud, de l'Argentine. On parle du Qatar, de l'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite ne fait pas partie de la francophonie.
Non, pas encore. Qu'est-ce qui rassemble ces pays? On va pas me dire que l'usage du français est une tradition de la Corée du Sud. Est-ce que c'est des traditions démocratiques? Mais alors, dans ce cas, il y a des pays qui ne sont pas des démocraties dans cet ensemble. Est-ce que c'est un projet économique? Mais on n'est pas dans les routes de la soie non plus. Donc, on comprend plus bien quel
est
le...
Écoutez, je vais vous dire, est-ce que vous posez les mêmes questions pour l'ONU? D'accord.
L'ONU, c'est une reconnaissance internationale.
Oui, oui.
Vous avez un droit de vote, vous faites partie de l'Assemblée générale. Du moment que vous existez comme pays, vous êtes à l'ONU.
Mais nous aussi, non, je suis désolée.
Mais non, mais du moment qu'on fait partie de la francophonie, on n'a pas le droit de vote à l'ONU. C'est autre chose. L'ONU a
mais la francophonie rassemble plus de la moitié des pays des Nations Unies. La francophonie est vraiment une organisation multilatérale, internationale, intergouvernementale.
Je veux dire, elle ne prend pas des résolutions qui s'appliquent à tout le monde.
Non, mais quand vous parlez de l'ONU. Quand vous dites que la Corée du Sud, par exemple, que vous sachiez, il n'y a pas d'attachement à la langue française. La condition aussi pour adhérer à la francophonie, c'est que le français soit enseigné et que le français vraiment trouve un élan dans ce pays. Déjà trois universités coréennes, déjà trois organisations coréennes de la République de Corée font désormais partie de l'agence universitaire de la francophonie.
Si demain la Corée du Nord décide d'enseigner le français, elle peut postuler à la francophonie.
Ah non, mais attendez là quand même. Vous êtes un peu fort.
C'est là où j'essaie de comprendre quel est le
projet. Il y a des critères d'adhésion. Un critère d'adhésion, entre autres, bon, d'une part, promotion de la langue française, enseignement de la langue française, clair, et aussi des valeurs universelles. Ça fait partie. Okay. Premier article de la charte. Donc, il faut pouvoir aussi adhérer à ces valeurs. Et c'est un espace de coopération. C'est un espace où la langue française sert de trait d'union pour faire. Ouais. Et pour vraiment déployer, au niveau de la coopération politique, des expertises, des savoir-faire, des échanges aussi d'expériences. Même chose pour la francophonie économique, même chose pour la francophonie numérique, même chose pour la culture. Nous sommes là toujours, partout où il est question de renforcer des capacités, vous nous trouverez. Partout où il faut désamorcer des crises, vous nous trouverez. Partout où il faut encourager
Michael
le dialogue et la démocratie, vous nous
trouverez. On va avancer dans cet entretien. Emmanuel Macron, le président français, lui, a sa vision de la francophonie. Il a promis une initiative dans les prochains mois pour la redynamiser. Et il a demandé à une écrivaine, Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, d'être sa représentante personnelle pour la francophonie. Alors, on va l'écouter là tout de suite, Leïla Slimani.
Oui, on est français, mais moi je peux demain, grâce à cette langue française, aller parler avec quelqu'un au Togo, au Brésil, en Chine, au Maroc. Et cette idée-là, je pense qu'elle est très importante. Et dans une période comme la nôtre, dans une période où il y a le danger de la xénophobie, où il y a cette envie dans beaucoup d'endroits du monde d'ériger des murs et de dire que chaque culture est enfermée sur elle-même et qu'il y aurait une sorte de conflit des civilisations, je pense que justement la francophonie, elle dit exactement l'inverse.
Michael Jean, la nomination de Leïla Slimani, est-ce que c'est une façon de dire à l'OIF il faut se recentrer sur sa vocation, une de ses vocations premières, qui était une vocation culturelle plus que politique?
La francophonie a d'abord été, je dirais, dans son évolution institutionnelle, une agence de coopération culturelle et technique. Mais déjà, ces chefs d'État qu'on appelle les pères fondateurs,
oui.
C'est Léopold Sédar Senghor, Sénégal, Amadou Diouri du Niger, Bourguiba de Tunisie, Sihanouk du Cambodge, se projetaient déjà sur un marché en commun, se projetaient déjà sur de la coopération, voulaient renaître de cette expérience qui a été extrêmement, je dirais, à la limite violente.
Mais là, je vous questionne sur la nomination de Leïla Slimani.
Comment on pouvait ensemble se projeter pour reconstruire nos liens et construire un espace de coopération. Et d'abord la France a d'abord insisté. La France a d'abord voulu, d'une association, mais dans une agence de coopération culturelle et technique. Et cela voulait dire par technique, on entendait aussi éducation, formation.
Comment prenez-vous le fait que Leïla Slimani soit finalement une simple bénévole? Elle le dit elle-même. C'est pas un ministère, c'est pas un secrétariat d'État. Elle n'a pas de budget, elle n'a pas de bureau.
Elle est la représentante du chef de l'État, mais il y a aussi un secrétaire d'État. Il y a aussi tout un travail que nous faisons avec différents ministères français. Vous savez que nous venons, par exemple, de fonder l'Observatoire Boutros Ghali avec le ministère français de la Défense, les ministères des Affaires étrangères du Canada et de la Belgique. Et donc, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation aussi, le ministère français de l'Éducation, le ministère l'Europe et des Affaires étrangères.
Et Leïla Slimani,
par contre,
comment
est une femme d'intelligence.
Comment vous allez travailler avec Leïla Slimani?
Mais très bien, nous avons déjà commencé à travailler
avec
elle.
Alors, c'est quoi votre agenda commun?
Elle vient au Conseil permanent de la francophonie et je pense qu'elle a dit très clairement son engagement et sa compréhension de la francophonie. D'abord, elle y voit un espace de grand partage. Écoutez, ce qui fonde la francophonie, c'est aussi un idéal. Un idéal qui s'appuie sur un humanisme intégral et universel. Ne pensez-vous pas que le monde en ait besoin ? Tout ce travail que nous faisons et que vous questionnez, par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est un travail qui est une plus-value que nous apportons à l'ensemble du monde avec un multilatéralisme qui s'appuie sur une vision vraiment d'une dimension internationale basée sur l'éthique, basée vraiment sur la coopération en matière de développement, de protection de l'environnement, sur des questions urgentes, en matière de sécurité aussi, en matière de stabilité pour le monde.
Alors, justement,
cela est essentiel. Ce n'est pas s'éparpiller. C'est être là et apporter une plus-value en réponse à tous ces défis que nous devons affronter et que nous devons affronter ensemble.
Michaël Jean, en décembre dernier, le président français a proposé également à un intellectuel Alain Mabankou, qui est prix Renaudot en 2006, qui a été de contribuer aux travaux de réflexion sur la langue française et sur la francophonie. Alain Mabankou vient dans une lettre adressée au président français de refuser de participer à ce projet.
Il a le droit. Projet.
Oui, et bien sûr. Mais il a des arguments aussi pour expliquer son refus. Il dit que la littérature française a une définition trop étriquée. Et surtout, voici ses arguments, on va les entendre, qui ont été développés par lui déjà en 2016. On l'écoute.
Je suis contre la francophonie institutionnelle. Je suis pour la francophonie culturelle, la francophonie de la diversité qui, elle, s'exprime par la liberté du peuple. Et beaucoup de peuples francophones ne sont pas libres parce qu'ils ne peuvent pas respirer, parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont traînés depuis des années par des monarques. Rien n'a changé. Si ce n'est pas le fils qui est au pouvoir, c'était le père qui était au pouvoir. Et c'est toujours au nom de la francophonie. Cette francophonie-là, c'est fini. Parce que nous arrivons à un cycle où on ne peut plus tromper les peuples.
Alors, vous voyez, ce que je dirais à Alain Mabankou, pour qui, bon, j'ai beaucoup d'estime, c'est un homme, c'est un écrivain de grand talent, c'est que c'est aussi la francophonie institutionnelle qui est sur le front de la défense des droits et des libertés. C'est aussi la francophonie institutionnelle qui est sur le front de la culture. C'est aussi la francophonie institutionnelle qui est là aussi pour la défense de la démocratie, pour le renforcement des institutions garantes de l'état de droit. C'est aussi la francophonie institutionnelle qui tous les jours fait un travail incroyable pour accompagner avec une double détente, c'est-à-dire à la fois d'appui technique et politique des processus électoraux.
Alors vous réalisez ses propos, une francophonie qui trompe
je lui dis
les peuples
non, en fait.
Il dit aussi que la francophonie est perçue comme la continuité de la politique étrangère de la France dans ses anciennes colonies. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? C'est une perception, c'est un constat.
Mais écoutez, c'est un constat. Non, écoutez, la francophonie, c'est tout sauf ça. La francophonie n'est pas un avatar du colonialisme, ni le bras armé et masqué de la politique française dans l'espace. Non, pas du tout. Nous avons affaire à des États.
Alors comment vous expliquez que les gens le perçoivent comme ça ?
Mais il y a une question d'actualité,
en fait,
Christophe.
Je vais vous dire, c'est surtout en France qu'on a cette perception. Voilà. C'est surtout en France qu'on a cette perception. Et je vous dirais que, au fait, il y a quelque chose qui probablement, chez vous, crée un malaise. Parce que il faut prendre le pas aussi de cet idéal qui est justement de passer à autre chose.
C'est pas qu'en France en ce moment. Vous avez des manifestations à Kinshasa contre le rôle de la France dans le maintien au pouvoir de Kabila. Qu'est-ce que dit la francophonie ?
La francophonie, depuis 2015, est à pied d'œuvre en République démocratique du Congo. D'une part, avec cet appui technique dont je vous parlais, sur le fichier électoral et l'audit du fichier électoral. La francophonie, partout où il y a eu discussion, justement,
les gens
pour arriver même à l'accord de la Saint-Sylvestre.
Mais les Congolais, ça fait déjà 2 ans que ce fichier n'existe toujours pas. Enfin, il n'est toujours pas
attendez.
Prêt.
Il y a aussi tout le travail qui a dû être fait avec la CENI, hein, qui est cet organe responsable de l'ordonnancement des élections. Voilà. Il y a tout ce travail qui est fait avec la société civile. Il y a tout ce travail qui est fait aussi sur l'espace de dialogue qu'il faut et qui amène l'ensemble des acteurs politiques à s'entendre autour vraiment d'un accord pour qu'effectivement ces élections se tiennent et dans des délais que l'on souhaitait beaucoup plus autres que ceux que l'on a maintenant.
Il y a parce que les gens qui sont dans la rue aujourd'hui...
On parle de décembre 2018, voilà. Alors qu'on les attendait depuis 2016.
Mais ils s'estiment mis devant le fait accompli, les gens qui sont dans la rue aujourd'hui. Finalement, tout le monde s'est plié à ce délai, ils pourraient...
Les gens qui sont dans la rue en ce moment veulent rappeler tout leur investissement aussi pour faire aboutir l'accord du 31 décembre 2016. Voilà pourquoi ils sont dans la rue. Et cette mobilisation, elle est réelle. Nous espérons en tout cas que, par exemple, que ces manifestants qui viennent légitimement demander, poser leurs conditions, exprimer leurs attentes, ne soient pas, je veux dire, réprimé dans le sang, comme on a pu le voir. Alors, cela est inacceptable, j'ai eu à le dire aussi.
Michaël Jean, alors, au moment où le président Macron souhaite redynamiser la francophonie, il y a 3 jours, on a appris qu'un tiers des administrateurs de la Fondation Alliance Française ont démissionné. L'Alliance Française, je le rappelle, c'est un réseau de plus de 800 alliances dans 133 pays qui permet l'enseignement du français à 500 000 étudiants. Un commentaire sur cette actualité?
Voilà, bon... C'est une affaire française.
Les alliances françaises, financières apparemment.
Les alliances françaises, ce que je peux dire, c'est que nous avons toujours su travailler avec elles, comme avec les instituts français.
Mais comment vous interprétez alors ce qui se passe?
Bon, il y a une question administrative qui se pose. Moi, je regrette infiniment de voir finalement la Fondation Alliance Française dans cette situation. Cela est dommage. Parce que ce sont autant, je dirais, d'acteurs très dynamiques pour la promotion de la langue française, de manière générale.
Est-ce que de manière générale, la France, le président Macron, met les moyens à hauteur de ses ambitions par rapport à la francophonie?
Il y a un secrétaire d'État.
Pas dans l'intitulé.
Il s'appelle Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, responsable de la francophonie. Il s'appelle Jean-Baptiste Lemoine. Voilà. Et il y a aussi une Sherpa, la représentante du chef de l'État qui vient au Conseil permanent de la francophonie. Vous l'avez présentée là, elle s'appelle Leïla Slimani.
En termes de budget. Voilà.
En termes de budget, je vais vous dire une chose, parce que d'abord, je respecte la volonté du président de la République, Emmanuel Macron, d'établir clairement et d'annoncer le 20 mars prochain sa stratégie pour la France en francophonie. La France, avec 83 autres États et gouvernements, la France en francophonie. Et je me réjouis de voir que dans ses propos, il parle aussi du rôle de la francophonie en matière d'éducation, de formation, de soutien à l'insertion professionnelle des jeunes, en matière de développement. Nous sommes là aussi en soutien à l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Notre rôle aussi politique sur le terrain, je veux dire, jamais on a vu depuis 2015, autant de pays engager des processus électoraux.
Excusez-moi, on arrive au bout de cet entretien.
Donc, je veux terminer, s'il vous plaît.
Très rapidement.
C'est que la France, le président Macron même, nous a demandé, le Quai d'Orsay également, de participer à la réflexion qui viendra nourrir cette stratégie que veut définir la France pour sa place dans la francophonie et son soutien à la
compagnie. Dernière question, Michaël Jean. En novembre prochain, comme nous le rappelions au début de cette émission, le sommet de la francophonie se déroulera en Arménie, à Erevan. C'est là que sera désigné le prochain secrétaire général de la francophonie. Est-ce que vous serez candidate pour un deuxième mandat?
Je vais vous dire. Je porte une feuille de route. Et je me suis engagée. Je me suis engagée à la porter. J'ai été élue en 2014 à la porter pendant 4 ans. Eh bien, je travaille. Je travaille.
Oui, mais là, nous sommes à 10 mois. Hein. Donc, ou non, vous représentez?
Moi, écoutez, de toute façon, moi, je n'ai pas à me représenter. La façon dont cela se passe, c'est que l'on pourrait me reconduire Pour le moment.
Vous prenez.
Ce que j'aime, c'est que beaucoup d'actions que nous avons engagées, notamment au niveau de la francophonie numérique et économique, qui est un pivot de cette feuille de route, montrent des résultats. Nous voyons l'impact sur le terrain.
Donc vous voulez les conforter et vous voulez les porter dans un deuxième mandat.
Je voudrais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, que l'on puisse pérenniser, je veux dire, ces résultats obtenus.
Très très court, il nous reste quelques secondes.
Sur un bilan, je dirais, qui est très réjouissant.
Qu'est-ce que vous feriez lors d'un prochain mandat que vous n'avez pas pu faire, en deux mots?
Je pense qu'il
nous reste 30 secondes.
D'abord, les chantiers sont importants. Sur la sécurité, nous allons continuer. Sur la stabilité, nous allons continuer. Sur vraiment stabilité et sécurité, qui sont des conditions essentielles pour le développement, nous allons continuer. Sur la création d'emplois pour les jeunes, il faut continuer. Sur le soutien à l'entrepreneuriat, il faut continuer. Sur l'enseignement du français et la formation professionnelle des jeunes, il faut continuer ce travail. Donc, vous vous rendez compte.
Oui, on a compris.
Et la cohésion sociale.
Il y aura probablement aussi une candidature pour un deuxième mandat sur beaucoup de chantiers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions, à celles de Christophe et de Sophie.
Merci
à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
RFI.